Bonjour à tous, bienvenue sur cette première visioconférence du Centre des professions financières pour 2020.
Bonjour à tous, bienvenue sur cette première visioconférence
2023. Déjà tous nos voeux pour vous et vos proches. Donc ce matin, on va parler loi de finances, d'actualité fiscale. Et un petit mot sur le Centre des professions financières, comme d'habitude. Donc c'est un organisme d'intérêt général qui regroupe plusieurs milliers de financiers, de professionnels, au travers de 8 clubs, donc qui renvoient à différents métiers, que ce soit les marchés financiers, le contrôle, les investisseurs de long terme et le club du haut de bilan que je préside et qui vous reçoit ce matin. Donc on va parler de loi de finances 2023 et actualité fiscale, puisqu'en résumé dans la loi de finances, un petit peu comme en 2022, il y a quelques évolutions, mais pas tant que ça. Par contre, côté jurisprudence, c'est plus touffu, on va dire. Donc, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Barré et François Morazin, avocats associés tous les deux du cabinet Yard. Donc, on va aborder à la fois les sujets de loi de finances et la jurisprudence fiscale. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en live. C'est dans l'onglet qui est à droite de votre écran. Et donc, on en a déjà reçu. Mais n'hésitez pas à intervenir et on tâchera donc de manière interactive d'y répondre en direct. Je remercie l'équipe du centre qui est à la manœuvre, entre guillemets, pour réaliser cette visioconférence au niveau technique avec Astrid et Mary, et évidemment Catherine Chevassu, la déléguée générale du centre. À la fin de cette visioconférence, je vous donnerai également les prochaines réunions en présentiel et en visio du centre. Donc on aura 4 parties dans cette petite heure qu'on va passer ensemble. Tout d'abord la loi de finances, vue sous l'angle des entreprises, vue sous l'angle des particuliers, et ensuite à nouveau 2 autres parties, cette fois-ci sur la jurisprudence. Eh bien on va démarrer dès à présent avec François Morazin. Maître François, c'est à vous.
Oui, merci. Bonjour à tous, donc on peut peut-être passer au slide suivant, comme vous l'a expliqué Eric. La loi de finances 2023, comme la loi de finances précédente, est assez pauvre en nouvelles mesures. S'agissant des entreprises, on a opté pour 2 mesures symboliques, mais vous allez voir, elles sont assez symboliques, et c'est pour ça que de ce fait, on a voulu étendre ce point d'actualité sur la jurisprudence qui est intervenue et qui, pour le coup, a été assez touffue dans un sens positif comme dans un sens négatif. Voilà, on peut commencer. Alors, je voulais juste, avant d'évoquer les deux dispositifs que je vais rapidement évoquer, vous parler quand même de ce qui a été écarté pour que vous ayez une vision des choses, mais concrètement, il y a un dispositif sur les captifs de réassurance en France. Il y a des questions de droits de mutation sur des entreprises individuelles soumises à l'IS et sur les cessions de droits sociaux. Il y a des questions sur ce qu'on appelle les attributions gratuites de titres à la suite d'un apport partiel d'actifs et les conditions dans lesquelles les agréments sont donnés, des champs d'application de R&D, des crédits d'impôt collection. La surtaxe sur les profits pétroliers, mais on a considéré que ces différents dispositifs finalement étaient assez peu parlants, c'est assez technique en fait, ces dispositifs assez techniques qui n'ont pas vocation à impacter de manière générale la vie des entreprises. Donc on a surtout acté le point d'actualité, loi de finances, sur la fiscalité des entreprises est acté sur 2 points, sur le taux de l'IS et sur le statut des jeunes entreprises innovantes. On peut aller au slide suivant. Exactement. Donc la première mesure qu'on a choisi d'évoquer avec vous, c'est le taux de l'IS qui est applicable aux PME. Alors, comme sans doute certains d'entre vous le savent, il y avait un taux spécifique de 15% qui est applicable aux PME. Et ce taux de 15% s'appliquait jusqu'à la limite de 38 120 euros. Ce taux n'avait jamais été réévalué. C'est pourquoi il a été, à l'occasion de cette loi de finances, remonté. Alors, il y a eu plusieurs allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat voulait un taux plus important, mais finalement, le taux qui a été retenu est un taux à 42 500 euros Concrètement, ça tient compte de l'inflation. On rappelle les conditions. Il y a des conditions pour être qualifié de PME. Il faut un montant de chiffre d'affaires qui soit inférieur à un certain seuil, qui est de 10 millions. Il y a des conditions de détention du capital de la PME. Il faut que la PME soit détenue par des personnes physiques ou par des à hauteur de 75% ou par des sociétés qui elles-mêmes sont détenues par des personnes physiques. Et on rappelle pour mémoire que ce seuil de 10 millions d'euros a été relevé par la loi de finances précédente 2021. Il était précédemment de 7 630 000 euros. Sur la mesure suivante, sur le dispositif pour les jeunes entreprises innovantes, donc c'est le slide suivant. Non, précédent. Exactement. C'est l'article 33 qui proroge le dispositif jeune entreprise innovante. C'est pas une immense surprise, mais c'est la quatrième recondition de ce régime spécifique. On rappelle le bénéfice de statut de jeune entreprise innovante, c'est une exonération d'impôts sur les sociétés, un allègement des impôts locaux, également des exonérations en matière de charges sociales et un remboursement de crédit d'impôt recherche qui est accéléré par rapport au statut des entreprises normalement. Donc jusqu'ici, le dispositif arrivé à terme, il a été renouvelé et donc maintenant il s'appliquera aux entreprises qui qualifient et qui sont créées jusqu'au 31 décembre 2025. Le bénéfice du régime, c'est une exonération, comme je l'ai évoqué, d'impôts sur les sociétés pendant 8 ans. Donc il y a des comme vous le verrez dans les slides, et 7 ans pardon pour les impôts locaux. Exactement. S'agissant, pour rentrer un peu plus dans les détails, de l'exonération d'impôt sur les sociétés, c'est une exonération totale la première année, une exonération de 50% des bénéfices réalisés au titre de l'exercice ou période d'imposition suivant. Il y a des conditions qui sont rappelées dans le slide pour bénéficier effectivement de ce régime. C'est un régime qui est important, et qui vise à continuer à aider ces jeunes entreprises à se développer. Et en pratique, on continue à en voir et à en voir quelques-unes. Donc c'est pas une mesure qui ne s'applique à rien et qui n'a aucun impact, mais c'est une mesure réelle et il était important qu'elle soit effectivement renouvelée. Je vais laisser la parole à Jérôme pour évoquer l'actualité en matière de fiscalité patrimoniale.
Alors juste avant que Jérôme intervienne, je rappelle que donc il y a des slides qui sont diffusés. On ne va pas tous les traiter, et puis le temps de les lire est incompatible entre guillemets avec la vidéo en direct. Par contre, tous les inscrits recevront ces slides dans la semaine. Voilà. Jérôme, à toi. Mais il faut que tu réactives ton micro, Jérôme.
Pardon. Une activité fiscale qui est relativement soft du point de vue du législateur. Soft, on le verra, sauf pour la ligne animatrice en fonction des décisions de justice qui avaient été prises en 2022. Alors, si on affiche la première slide en page 7, il y a une revalorisation du barème de l'IR, une revalorisation d'un montant de 5,4 qui fait que la taxation à 45%, elle commencera au-delà de 169 000 euros, 168 994. Ensuite, on a une modification des modalités pratiques de prélèvement à la source. C'est-à-dire qu'autrefois, jusqu'à cette année, il fallait qu'on ait un écart de plus de 10% pour qu'on puisse éventuellement être sanctionné dans la modulation à la baisse du prélèvement à la source. Maintenant, cet écart n'est plus que de 5%, donc ce qui veut dire que c'est beaucoup plus ténu et que c'est beaucoup plus difficile d'ajuster son taux de 5%, son taux de retenue à la source. Alors évidemment, le prélèvement à la source, il s'est appliqué essentiellement pour des personnes qui étaient salariées. Pour les personnes qui ne le sont pas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Vous savez également que pour les personnes qui ne sont pas salariées, dans l'hypothèse où il y a des crédits d'impôt, il y a un décalage d'un an pour modifier le taux de prélèvement à la source. Donc, Pour les salariés, c'est quelque chose dont on comprend bien le caractère mathématique. Pour les non-salariés, c'est beaucoup plus désagréable. Également, il a été maintenu maintien du taux de majoré de la réduction d'impôt, qu'on appelle réduction Madelin, qui n'a rien à voir avec les aspects retraite. Mais c'est sur la page suivante. C'est ce qui concerne le soutien à l'investissement dans les entreprises, les jeunes entreprises dans l'espace économique européen. Ce Madelin est maintenu et permet donc l'application d'un taux majoré réduction d'impôt au titre de l'investissement. Pour l'instant, ce taux, on le connaît, mais il sera définitivement fixé à l'apparition d'un décret du gouvernement. Donc ça, c'est valable pour l'exercice 2023. Ce que l'on peut ajouter, donc c'est 25% des versements effectués, et 25% des versements effectués dans la limite de 50 000 euros pour un célibataire ou 100 000 euros pour un ménage. Le quatrième point sur les crédits d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants. Tout ça, c'est pas glamour, mais on voit que ça augmente quand même beaucoup, puisque ça concerne les enfants de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année considérée. C'est valable dès 2022. Ce crédit d'impôt, il est égal à 50% des dépenses de frais de garde qui sont engagés pour les enfants, avec un plafond qui est relevé à 3 500 euros par an. Donc ça, on doit retrouver ça dans la partie centrale des slides. Donc 3 500 euros par an et par enfant, soit un avantage fiscal de 1 750 euros par enfant. Et donc, comme je le disais, valable dès 2022. Le cinquième point, c'est les crédits d'impôt pour salariés à domicile. Donc, ça s'adresse aux salariés à domicile. On a un crédit d'impôt qui est égal à 50% des dépenses, qui est plafonné à 12 000 euros par an. Mais la particularité, c'est que vous savez qu'on a plusieurs taux en fonction des services qui sont rendus. Donc, dès 2022, donc dès la déclaration de revenus qui interviendra probablement au mois de mai, on devra distinguer selon le type de service. Donc, les plafonds sont de 500 euros pour le petit bricolage. Pardon, c'est des sujets très, très matériels et très détaillés. 500 euros pour le petit bricolage, 3 000 euros pour l'assistance informatique, 5 000 euros pour le jardinage. Et la personne qui travaillerait chez vous pour faire le ménage, le ceci, le cela, on resterait dans un plafond de 12 000 euros. Voilà. Alors, en fait, ce plafond varie si on a plusieurs enfants à charge, c'est-à-dire qu'il est en base à 12 000 euros, mais dans la limite de deux enfants, on peut rajouter 1 500 euros par enfant en charge, qui fait que le plafond passe de 12 000 à 15 000 euros. Le sixième point de la loi, c'est dans slide suivante, c'est la question des comptes déclarés à l'étranger, et ça, c'est un véritable piège. Normalement, nous sommes tenus de déclarer à l'étranger les comptes bancaires, nous sommes tenus de déclarer les contrats d'assurance vie, et à partir de maintenant, on va devoir déclarer les contrats de capitalisation. Et la question qui est aussi, qui décline de cette ce nouvel article 1649A, c'est que si vous, au cours des 10 dernières années, vous avez omis de déclarer les comptes à l'étranger, l'administration est en mesure à ce moment-là de vous demander l'origine des fonds. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas tout à fait sûr de l'origine des fonds, du moins la preuve de l'origine des fonds, parce que les fonds, on peut en être sûr, mais on n'a pas toujours la preuve. Vous savez que dans certains pays, comme la Suisse, par exemple, le délai d'obtention de documents est limité à 10 ans. Au-delà de 10 ans, vous ne pouvez plus obtenir d'informations légalement. Pratiquement, vous pourriez, mais les banques suisses sont très, très fidèles à cette période de 10 ans. Cela signifie que si vous oubliez de déclarer au cours de 10 ans, des 10 ans qui ont précédé le moment où on viendrait vous voir une seule fois les comptes dont on parle, donc les comptes, les contrats d'assurance vie et à partir de maintenant les contrats de capitalisation étrangers, eh bien, cela signifie que vous allez tomber dans un mauvais article qui est le L23C. Ce L23C, c'est un article sanction qui avait été mise en œuvre tout à la fin des régularisations ou à partir des nouvelles régularisations, c'est-à-dire celles qui n'étaient plus jugées comme spontanées. On vous demande de prouver la chaîne d'origine des fonds. Si vous ne pouvez pas prouver l'origine des fonds, on va considérer que ces fonds, vous les auriez perçus comme si vous étiez un étranger et que vous aviez un vieux copain ou un parent très très éloigné qui vous donnait ces fonds, et l'administration sera fondée à prélever 60% de taxes, qui est l'équivalent de ce que vous auriez sur des donations entre personnes sans lien familial. Donc, il est vraiment important à la fois de déclarer, sachant qu'en plus, vous avez une amende en principe de 1 500 € par compte et par an, 1 500 € par compte et par an, et par contrat d'assurance vie et contrat de capitalisation. Donc, il est important de déclarer pour éviter que l'administration, qui ne le fera probablement pas systématiquement, mais si elle sent que vous êtes un mauvais client, un mauvais contribuable, n'hésitera pas à vous demander la justification de l'origine des fonds. Donc, la conclusion de ce petit discours, c'est 1. Déclarer convenablement, et 2. Si possible, dans tous les cas, conserver les documents qui vous permettent de justifier de l'origine des fonds. Je crois que maintenant, je repasse la main à François.
C'est exact, et je t'en remercie.
Juste avant, une question pour Jérôme qu'on avait reçue. Je crois que tu l'as traité, mais par sécurité, je vais la reformuler. Concernant les salariés à domicile, est-ce que le plafond varie selon...
Oui, absolument, c'est ce que je disais, ça, on ne le sait pas toujours. C'est que si on a 2 enfants, il ne faut pas oublier de... Alors, on le sait, mais le plafond, il passe de 12 à 15 000, ce qui est franchement pas négligeable. Puisque c'est un crédit d'impôt pour salariés à domicile, c'est donc de l'impôt qu'on vous rend. Vous vous souvenez qu'il y a une différence entre déduction et réduction d'impôt. La déduction s'impute sur la base et la réduction s'impute sur l'impôt. Donc dès lors qu'on a un mécanisme qui s'impute sur l'impôt, c'est un mécanisme qui n'est pas à négliger. Et effectivement, dans la limite de 2 enfants seulement, à hauteur de 1 500 € par enfant, on passe de 12 000 à 15 000 euros.
Ok, il y avait aussi donc une autre question, c'est que dans cet univers que tu as évoqué, tu as dit que c'était valable à partir de 2022.
C'est valable dès 2022, oui. C'est-à-dire
que c'est rétroactif, que c'est...
Ça veut dire que c'est, on pourra appliquer ce plafond et on pourra appliquer cette augmentation de plafond qui est relevée à 3 500 €. Je ne sais plus combien c'était avant, mais c'était beaucoup moins que ça. Je l'ai marqué dans la slide précédente. Et donc, oui, c'est applicable dès à présent. Ce qui veut dire qu'on bénéficie dès à présent de ce 3 500 € par enfant pour les crédits d'impôt. Alors ça, c'était pour les frais de garde, mais également pour cette question de l'augmentation du plafond de 12 000 à 15 000.
Ok, merci Jérôme.
Donc c'est un rétroactif favorable, ce qui n'est pas toujours le cas.
Oui, effectivement. Donc on va repasser la parole donc à François. Donc là, on va passer sur la crédité fiscale, la jurisprudence. Je crois qu'on va parler de...
Substance,
mon ami. Effectif.
Exactement, c'est la notion. Oui, donc vous avez, enfin, comme évoqué, la loi de finances ayant été une loi de finances technique comme celle de l'année précédente, on a choisi de traiter des thématiques qui ont secoué un peu le droit fiscal au cours de l'année précédente. Donc si on peut aller sur le slide suivant, on a choisi, s'agissant des entreprises, de traiter du bénéficiaire effectif et de la notion de substance. Vous allez le voir, il y a une évolution de la jurisprudence et également un projet de directive qui s'appelle ATAD 3 qui sera évoqué après. Je vais essayer d'être le plus didactique possible et donc je lirai le moins possible mes slides, mais je vais vous raconter plus ce qui s'est effectivement passé. La notion de bénéficiaire effectif, elle est importante dans l'application des conventions fiscales. On sait que les conventions fiscales, c'est ce qui permet d'éviter les doubles impositions entre différents pays, notamment quand on a des flux, ce qu'on appelle des revenus passifs. C'est les dividendes, les intérêts, les redevances. La notion de bénéficiaire effectif, elle conditionne l'application de la convention fiscale, notamment, mais également des directives au sein de l'Union européenne. Et donc, il faut démontrer que celui qui perçoit effectivement les revenus est bien le bénéficiaire effectif pour qu'il puisse bénéficier soit de l'exonération, soit d'un taux de retenue à la source qui soit moins important en France. Et ça évite cette notion de bénéficiaire effectif. Elle permet d'éviter ce qu'on appelle, dans un mauvais français, le treaty shopping ou le chalandage fiscal, et d'éviter de choisir, d'interposer des structures, par exemple au sein de l'Union européenne, alors que mon bénéficiaire effectif, il est dans un paradis fiscal ou dans un pays qui bénéficie d'une convention fiscale moins avantageuse, et donc de bénéficier d'une retenue à la source moins importante. Il y a eu, et donc on peut aller sur le slide suivant, il y a eu l'année dernière, en mai 2022, un arrêt Planète. Alors Planète, c'est les salles de sport. Il y a eu un arrêt Planète l'année dernière, notamment il y a également eu un arrêt PRS. Alors PRS, c'est l'équivalent de la SACEM au sein de en Angleterre, qui sont venus, le Conseil d'État a rendu des décisions inédites. C'est pour ça que il semblait important de les évoquer sur la notion de bénéficiaire effectif. Ce qui s'est passé, c'est que initialement, les salles de sport françaises Planète avaient des contrats de distribution avec leur maison mère qui est située en Nouvelle-Zélande. Le temps a fait que, enfin, le temps a fait, pas que le temps, mais avec le, avec l'évolution du business, et c'est notamment le propriété des redevances qui sont versées pour l'utilisation des programmes de fitness. Avec le temps, ils ont interposé des sociétés à Malte et en Belgique pour pouvoir bénéficier de conventions fiscales et d'exonération, en l'occurrence, de retenue à la source sur le versement des redevances à ces deux entités qui elles-mêmes reversaient effectivement en Nouvelle-Zélande. L'administration fiscale française est venue et intervenue en contestant l'exonération de retenue à la source et a considéré qu'il fallait appliquer la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Zélande et une retenue à la source de 10% sur ces redevances et notamment sur le fondement du bénéficiaire effectif. Ils ont eu gain de cause devant en première instance et ils ont eu gain de cause en appel et ils ont eu gain de cause devant le Conseil d'État, sous une petite réserve, c'est que le Conseil d'État a renvoyé la décision, a confirmé, donc il fallait bien regarder le bénéficiaire effectif, mais a considéré que la Cour administrative d'appel, en l'occurrence, n'avait pas suffisamment qualifié et recherché quel était le bénéficiaire effectif pour pouvoir appliquer la bonne convention. Mais donc, ce faisant, le Conseil d'État retient les attendus du Conseil d'État font bien ressortir que, et alors d'ailleurs c'est pas des attendus, c'est des considérants, les considérants du Conseil d'État font bien ressortir que ce qui permet de rechercher le bénéficiaire effectif, c'est des éléments économiques et c'est le fait que la société est bénéficiaire effectif. La société qui peut effectivement bénéficier librement du revenu, ce qui n'était pas le cas des sociétés belges et maltaises qui reversaient la quasi-intégralité des sommes qui leur étaient versées par la société française à la société néo-zélandaise. Donc, le premier point, c'est que cette notion de bénéficiaire effectif, elle est effectivement, elle est reconnue par le Conseil d'État. Les éléments qui sont retenus par le Conseil d'État sont des éléments économiques. En cela, elle se conforme pour, en matière de convention fiscale à ce qui était également appliqué par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de directive, donc c'est la recherche économique. Elle n'a pas effectivement déterminé des critères spécifiques, donc on sent qu'il y a vraiment à chaque fois une recherche spécifique sur les critères, sur la base de critères économiques et pas seulement juridiques d'apparence pour rechercher effectivement le bénéficiaire effectif. Il y a une question que se posent les praticiens, c'est est-ce que je peux, moi, praticien, appliquer directement la convention entre la France et la Nouvelle-Zélande ou est-ce que je dois appliquer la convention entre la Belgique et la société maltaise, donc appliquer les apparences. Il me semble que ce n'est qu'on peut directement, et il y a également une partie de la pratique qui est dans ce terrain-là, sur ce mode-là, en disant il faut effectivement appliquer la convention avec le bénéficiaire effectif et pas se lier uniquement aux apparences. Et j'avais un dernier point que je voulais évoquer avec vous. Oui, c'était le suivant. L'administration fiscale, au regard de cette décision du Conseil d'État, elle n'est pas, pour procéder à un redressement, elle n'est pas obligée de déterminer quel est effectivement le bénéficiaire effectif. Elle doit juste démontrer que les sociétés interposées, elles n'ont pas de substance et elles ne sont pas le bénéficiaire et ou elles ne sont pas le bénéficiaire effectif des sommes qui leur sont versées. Ce qui fait ici, ce qui est, alors c'est un point, c'est l'application du droit fiscal contemporain, c'est-à-dire on est sur un système de preuves objectives, on considère que chaque partie ne peut déterminer que à partir des éléments qu'elle a en main. C'est-à-dire que l'administration fiscale, elle est incapable de déterminer quel est le bénéficiaire effectif, compte tenu des modes de communication entre les États, alors que moi, société, bah, par exemple Planète, je peux déterminer qu'elle est effectivement démontrer qu'elle est effectivement le bénéficiaire effectif. Donc, compte tenu de cette difficulté, on ne peut pas exclure que l'administration fiscale, à l'avenir, applique ce que l'administration fiscale probablement fera à l'avenir, c'est-à-dire elle déterminera pas le bénéficiaire effectif, mais elle appliquera le taux de retenue à la source interne en démontrant juste que la société belge et la société maltaise ne sont pas des sociétés qui sont effectivement les bénéficiaires effectifs de des sommes qui leur sont versées. C'était le point que je voulais évoquer avec vous sur cette décision du Conseil d'État. Et si on peut aller sur le slide suivant, je vais aller un petit peu plus vite sur ces éléments-là. Oui, alors, pardon. Les critères, et je le vois, les critères effectivement à privilégier, c'est, mais peut-être on y reviendra un peu plus tard, pour déterminer la substance, notamment la difficulté qui se pose, c'est quand on est dans des sociétés patrimoniales et des holdings patrimoniales pour déterminer quel est effectivement le bénéficiaire effectif et quelle est effectivement la substance. Quand on est sur des sociétés patrimoniales, il faut évidemment avoir un respect, mais pas que quand on est dans une société patrimoniale, avoir un respect du formalisme, du respect de l'objet social. Mais compte tenu de son activité très limitée, les éléments pour démontrer sa substance sont assez assez limités. Et y a des questions qui se posent sur le fait que cette notion, est-ce qu'elle se substitue, est-ce qu'elle se superpose avec la notion d'abus de droit? Ça a notamment été le cas dans une décision Editis de janvier 2022. Qui est intervenu où un manager avait interposé une société belge pour percevoir effectivement sa plus-value lors d'une opération de cession de Editis. En l'occurrence, ce qui avait été retenu par le Conseil d'État, c'était plutôt sur le terrain de l'abus de droit, en considérant que c'est pas seulement, il n'y avait pas seulement une question de substance, il y avait une question de fait d'interposer de manière frauduleuse une structure dénuée de toute substance en Belgique pour percevoir de manière fiscalement très optimisée ce profit de cession. Je voulais profiter de l'évocation de cette jurisprudence pour évoquer d'un mot sur un dispositif très technique qui est sur le slide, qui est sur les slides suivants, qui est une proposition de directive du 21 décembre 2021, c'est le slide suivant, qui est ATAD 3. Donc vous verrez sur les slides suivants ce que vise à faire, à mettre en œuvre la Commission, c'est concrètement un test de substance, avec différents échelons, un premier échelon, un deuxième échelon, et à chaque fois avec trois critères sur chaque échelon. L'entrée en vigueur serait à compter du 1er janvier 2024, mais a priori, la date d'entrée en vigueur risquerait d'être décalée à 2025. L'objectif, c'est au sein de l'Union européenne de lutter contre l'utilisation abusive de sociétés écrans. On voit que ça fait écho effectivement à la jurisprudence du Conseil d'État. Et la méthode, comme je vous l'évoquais, c'est une méthode critère. Alors, c'est un peu une démarche qui est identique à celle qui a été retenue par les Pays-Bas. Pour déterminer s'il y a des substances ou pas et créer un formalisme et vendre et agréer ces sociétés comme une substance suffisante pour pouvoir bénéficier des différentes mesures fiscales, que ce soit les directives ou les conventions fiscales. Si on rend, dans cette proposition de directive, donc qui n'est pas encore rentrée effectivement en vigueur, si on ne remplit pas ces critères-là, ben on perd le bénéfice des directives et des conventions internationales. Donc c'est assez embêtant, notamment quand on a des holdings qui perçoivent des revenus passifs. C'est pas que embêtant, c'est extrêmement pénalisant financièrement. Si on va faire défiler peut-être les slides suivants, vous allez le voir.
On avait reçu une question par mail. Enfin, je ouvre une parenthèse. Est-ce que tu peux repréciser la notion de substance?
Oui. Alors, et quel est l'impact pratique de cette notion de substance? C'est le bénéfice des conventions. Et c'est notamment, bah, vous avez une société, on va parler de, vous avez une holding luxembourgeoise qui perçoit des dividendes d'une société française. Si elle n'est pas reconnue comme ayant une substance suffisante, bah, on va regarder quel est le bénéficiaire effectif derrière pour pouvoir appliquer la bonne convention fiscale, éventuellement les taux de retour à la source interne. Donc, ça peut avoir un impact assez assez significatif. Et sur ces types de sociétés-là, en plus, on le voit sur les sociétés patrimoniales, comme je l'évoquais rapidement, pour démontrer la substance quand on n'a qu'une seule participation, la gestion d'une seule créance dans la holding, c'est compliqué. Donc ça demande de respecter un bon formalisme, d'avoir une vie effective. Mais on voit que il va falloir qu'elle ait démontré la bonne gestion de cette société-là et la rendre la plus, à mon sens, active possible pour éviter cet écueil. Sur les slides suivants, vous allez voir, alors vous le verrez quand vous recevrez effectivement les slides, on ne va peut-être pas détailler les différents critères qui sont applicables pour un projet de directive. On va gagner un petit peu de temps et sur des mesures qui sont techniques et qui ne sont pas encore effectivement dedans. Mais on fait une distinction entre les sociétés qui sont à laquelle la directive est applicable ou celle à laquelle la directive n'est pas applicable. Elle n'est notamment pas applicable à des sociétés cotées ou à des sociétés financières spécifiques. Quand elle est applicable, on regarde trois critères pour déterminer si elle a un test de substance, trois critères cumulatifs. Donc vous voyez les trois critères, c'est plus de 75% de revenus passifs, 60% de revenus de l'étranger et externalisation des fonctions de direction. Dans ce cas-là, c'est pas bon. Si ces trois critères cumulatifs sont remplis, ben on regarde trois critères pour voir s'il y a des obligations déclaratives renforcées qui doivent être effectivement remplies. Est-ce que les locaux de l'entreprise sont situés au sein des États membres? Est-ce qu'elle détient un compte bancaire au sein de l'Union européenne? Est-ce que la résidence fiscale de ses dirigeants est au sein d'un État membre ou pas? Si ces trois critères-là sont remplis, on la sort du champ d'application des obligations déclaratives renforcées. Si elle ne remplit pas ses obligations déclaratives renforcées, il n'y a pas d'application des directives et des conventions fiscales, à moins que l'entité renverse la présomption qui a été faite. Voilà, je l'ai fait rapidement, c'est assez complexe et assez technique, ce n'est pas forcément le lieu pour rentrer dans une présentation de loi finance qui a plutôt une vocation pédagogique et d'éveil sur les sujets, mais voilà, il faut garder cette évolution jurisprudentielle et potentiellement législative en tête. Et je repasse la parole à Jérôme pour un sujet passionnant, la société holding animatrice.
Alors, juste François, pour aller dans le complément de ce que tu disais, on fait beaucoup de schémas, tu le sais, souvent des mécanismes d'apport, pas forcément des mécanismes d'apport-cession, mais oui, c'était la bonne slide avec les. En page 19. Dans le prolongement de ce que tu disais, donc on a quand même une directive européenne qui vient nous embêter un peu, dont on ne connaît pas toute la portée, tu sais, sur le fait que si j'apporte un portefeuille de valeurs mobilières, par exemple, je suis dans une société familiale qui est une société qui est une holding familiale, et cette holding, elle détient notamment des valeurs mobilières qui vont pas d'ailleurs rentrer dans le Dutreil. Et si jamais je décide d'encapsuler ma participation parce que je suis minoritaire et que mes frères et sœurs, ma mère par exemple, veulent des distributions parce qu'ils sont très gourmands, moi je ne voudrais pas à chaque fois payer 34%, hein, 30% de flat tax plus 4% de contribution exceptionnelle sur les revenus. Donc j'ai envie d'encapsuler ma société. Or là, cette directive qui refroidit tout le monde et sur lequel il n'y a pas énormément d'ailleurs de choses qui sont écrites pour l'instant, nous dit que si je fais ce type d'opération et que je veux bénéficier du régime mère-fille, c'est-à-dire de ne payer au moment de la remontée des dividendes de ma holding vers ma sur-holding que j'ai mise pour éviter, pour avoir un filtre fiscal, et si cette société que j'ai apportée n'a pas une vocation opérationnelle, théoriquement, je ne peux pas bénéficier du régime mère-fille. Alors ça, c'est un sujet qui est quand même très, très compliqué parce qu'aujourd'hui, en matière patrimoniale, il n'est pas rare, il est même fréquent qu'on encapsule des participations ou des titres pour pouvoir bénéficier d'une taxation qui est à effet retard. On l'aura, cette taxation, mais elle est plus tard. On va donc considérer que le législateur européen, penserait qu'on ne peut bénéficier de ce système que pour des mécanismes opérationnels. on peut en discuter longuement, mais ça, c'est un point d'attention que je voulais citer à la suite de ce que tu venais de dire. Donc, le pacte Dutreil. Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que c'est un pacte qui intéresse les uns et les autres, et notamment ceux qui ont des entreprises et que c'est, qui voudraient que ces entreprises puissent être transmises à leurs ayants droit dans la mesure du possible et à ceux qu'ils auraient désignés le cas échéant, c'est-à-dire que ça suppose un repreneur. Vous vous souvenez que les conditions, c'est quelque chose de relativement fin mais facile à retenir. Il faut contenir pour une société non cotée 17% des droits financiers ou 34% des droits de vote. Pour une société cotée, c'est juste 20%. Qu'il faut faire un agrément, un document, un contrat, un pacte dans lequel on s'engage avec un des membres de la direction qui adhère au pacte à conserver des titres pendant un minimum de 6 ans avec tout d'abord un engagement collectif, on est tous ensemble et on ne peut pas bouger, puis on peut dénoncer l'engagement collectif au bout de 2 ans, sauf si on a prévu autre chose dans ce pacte, dans cet agrément, et ensuite on a un engagement minimum de détention individuelle de 4 ans. Tout ça a été fait pour qu'effectivement le pacte Dutreil ne soit pas un gadget uniquement pour des raisons fiscales. La raison fiscale, elle est simple, c'est que si je suis en pacte Dutreil en matière de transmission, je vais avoir un abattement de 75%, donc je ne serai taxé que sur 25%. Et si j'ai moins de 70 ans, au moment où je fais par exemple une donation, si en plus je fais une donation démembrée, je vais pouvoir bénéficier d'une réduction en base sur les 25% de 50%, donc je ne suis taxé que sur la moitié de 25%. Et si je suis un garçon ou une fille jeune, par exemple entre 50 et 60 ans, je vais avoir une diminution encore de la nue-propriété de 50%. Donc, j'ai un taux de taxation en matière de donation, éventuellement de succession suivant les cas, d'un taux qui va varier entre 2 et 11% de taxation. Comme on sait qu'en France, on a un taux de taxation en matière de droit de donation ou de succession qui est 45% au-delà d'1,8 million, on voit bien l'intérêt de rentrer dans ces fourches codines. Alors, on pourrait se dire, c'est super compliqué, on pourrait faire plus simple. C'est clair. Maintenant, je pense que si on faisait plus simple, on aurait probablement un débat politique sur ce thème du cadeau qui est fait aux riches. Vous avez vu dans tous les programmes aujourd'hui des gens d'opposition voudraient, le cas échéant, remettre en place l'ISF et non pas le cantonner à l'immobilier. Ils voudraient également, probablement, on pourrait revenir sur des questions de cette nature si jamais elles n'étaient pas aussi complexes. Les activités éligibles pour bénéficier du Dutreil, il faut avoir une activité opérationnelle ou bien, et ça c'est une notion qui avait été définie à l'origine par la jurisprudence, c'est-à-dire avoir une activité d'holding animatrice. La notion de holding, c'est un sujet intéressant parce qu'on le retrouve pour différents systèmes et pour différents cas, et c'est une véritable boîte à outils qui produit des conséquences en matière d'impôt sur la fortune immobilière, par exemple dans l'hypothèse où on a des biens qui sont nécessaires à l'activité de la holding. C'est aussi un intérêt sur des plus-values sur droits sociaux avec des mécanismes d'abondement renforcés le cas échéant et puis qui permettent de faire des opérations d'apport avec des régimes de report ou de sursis suivant les cas. Et puis c'est la possibilité, ça c'est une possibilité fine mais qui est intéressante, qui est aussi dans le Dutreil transmission, de bénéficier d'un régime de paiement et de différé fractionné. Qu'est-ce que c'est qu'une holding ? On s'en souvient tous, mais c'est toujours important de le rappeler. C'est une société qui a pour activité principale, pardon de lire mon texte, outre, qui est une décision de jurisprudence de 2018 dans la RECOFIS, qui nous dit que, outre la gestion d'un portefeuille de participation, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, cas échéant à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe. Oui, j'aurais dû dire la holding animatrice, pardon, je dis que la holding. Donc, la holding est, EST, animatrice de son groupe et doit par suite être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, donc de plein droit, éligible au Dutreil, commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, au sens des dispositions de l'article machin. Donc, l'intérêt, c'est de considérer aujourd'hui que cette notion de société animatrice, c'est pas nouveau, mais en tant que telle, est une activité éligible au pacte Dutreil, donc on appelait Jacob, transmission, donc succession et donation, dès lors qu'on remplit un certain nombre de cas. Et le premier cas, le premier sujet, c'est que la holding animatrice, elle doit définir la stratégie de son groupe. C'est ça le sujet principal. On est des services comptables, etc. Mais d'abord, définir la stratégie de son groupe. La stratégie, c'est je la définis, je l'émets, les récepteurs la reçoivent, travaillent sur cette stratégie et ensuite rendre compte. Donc, il faut un ensemble de documents pour que ce système fonctionne. Il est assez précis et la jurisprudence a été très nombreuse au cours de ces dernières années. Alors, les deux sujets qu'on voudrait évoquer, c'est un sujet que je trouve à la fois pratique et juridique, qui est que on a eu la possibilité, le législateur, enfin l'administration nous a permis, en réalité, de considérer que lorsqu'on avait un pacte Dutreil-ISF et qu'on remplissait les conditions, eh bien, l'on pouvait étendre l'usage, la pratique et les intérêts de ce pacte Dutreil-ISF à un pacte Dutreil-transmission. Mais voilà-t-il pas que patatras, on supprime l'ISF parce que c'était une référence à l'ISF, on supprime l'ISF, qu'advient-il de cette possibilité ou non d'utiliser le pacte Dutreil transmission à partir d'un pacte Dutreil qui avait été à l'origine ISF. Alors, on a plusieurs sujets sur ce thème. La première chose, c'est que si on avait un pacte Dutreil ISF et que l'on ne l'a jamais utilisé en matière de pacte Dutreil succession, j'ai tendance à penser que ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez un pacte Dutreil ISF, mais vous n'avez jamais fait de donation sous l'empire de ce texte qui nous permettait, quand l'ISF existait, de procéder à des donations. Vous vous demandez aujourd'hui si c'est possible, j'aurais tendance à dire que non. Hein. Vous vous souvenez que tout avantage fiscal doit s'analyser de façon restrictive. Maintenant, vous avez un pacte Dutreil ISF et vous l'avez exploité, utilisé sous l'empire de cette extension favorable, et vous l'avez utilisé pour des raisons de transmission. Alors aujourd'hui, on a une difficulté puisque évidemment l'ISF n'existe pas. Et on a une deuxième difficulté, c'est que ces documents, ces pactes passent par les notaires, notamment les successions et les donations passent par les notaires. Et les notaires aujourd'hui sont extrêmement prudents sur ce sujet. Alors qu'on a interviewé le Cridon, qui dit que c'est quelque chose qui pourrait quand même être valable, hein, dans l'hypothèse où on a du trait.
Jérôme, si tu peux juste préciser ce qu'est le Cridon.
Pardon ?
Si tu peux juste préciser.
Oui, alors le Cridon, c'est l'organe de doctrine des notaires, pardon, c'est vrai. C'est donc quand les notaires ont une question technique qui les préoccupe, ils s'adressent à cet organisme qui rend des consultations juridiques qui n'ont pas valeur de loi, mais qui sont généralement suivies par les notaires en ce qu'elles sont censées dire le droit applicable aux notaires. Et ça aussi un intérêt, c'est dans un certain de cas de couvrir leurs responsabilités. Donc, par l'intermédiaire d'un notaire ami, on a posé la question. La réponse du Cridon aujourd'hui est de dire c'est quelque chose, puis après je vous expliquerai le mécanisme sur lequel on réfléchissait, c'est quelque chose que l'on peut envisager, mais l'administration risque de ne pas être d'accord. Bon, alors ça ne dit pas grand-chose de plus, mais alors ce que nous avons imaginé, suggéré, et les arguments juridiques qu'on nous tire de tout ça, c'est que, comme vous le savez, la réforme des contrats fait qu'aujourd'hui, on ne cherche plus quelle est la cause du contrat, mais quels pouvaient en être des buts. C'est quelque chose de plus général. Donc, dans l'hypothèse, vous avez un pacte Dutreil-ISF, que ce pacte Dutreil-ISF a été déjà utilisé et qu'on se retrouve aujourd'hui en position de réfléchir à savoir si on peut ou non utiliser ce pacte Dutreil, eh bien, rien ne m'empêche de considérer que mon contrat était valable et ce contrat, peut-être pas ab initio, mais dès lors que l'administration me l'a permis, me permettait d'utiliser le Dutreil à des fins de succession. Et ce que l'on a fait dans un certain nombre de cas, en attendant que les sujets soient plus clairs, c'est de déposer sous la forme d'un document enregistré, non pas un avenant au contrat, parce qu'un avenant vient changer la nature peut-être ou les effets du contrat, mais un complément. C'est-à-dire que dans ce complément, on explique qu'on a toujours, on a fait du Dutreil ISF, puis qu'on a également réalisé des opérations de Dutreil succession, et que ce Dutreil succession, ou donation plutôt, était devenu un but, et que simplement par le fait que nous sommes dans une convention juridique, dans une convention civile, qui a des conséquences fiscales, certes, on a considéré que le système pouvait être applicable. Ça, c'est le premier sujet. Pour autant, cette question n'est pas finie. Et on passe au deuxième sujet, qui est la prépondérance de l'activité exigible. Alors là, on a une jurisprudence tardive même, enfin, très récente, qui est une jurisprudence du mois de la fin de l'année 2022. Je ne me souviens plus si c'est décembre. C'est un arrêt du 14 octobre. Et cet arrêt du 14 octobre, il nous dit quels sont les éléments qui sont éligibles. En réalité, dans le cas de la question de la ligne animatrice, on veut savoir donc si elle définit sa stratégie, et on veut savoir si, sous la méthode du faisceau d'indices, le chiffre d'affaires, les activités, pour faire simple, sont bien opérationnels, et si, en jouant ce rôle de société animatrice et donc de stratégie, elle définit un certain nombre de choses. Et elle définit notamment cette stratégie, et comme je l'expliquais, c'est un peu, pour s'en souvenir, ce que le général Massu avait dit à la fin de la bataille d'Alger au général de Gaulle, voilà ce qu'on m'a demandé de faire, voilà ce que j'aurais dû faire et voilà ce que j'ai fait. Donc la société animatrice, elle envoie un message en disant, voilà, la stratégie que nous définissons, c'est celle-ci. Les sociétés concernées, recevant ce message, disent, nous avons bien reçu cette stratégie, comme je l'évoquais tout à l'heure, sont censées la mettre en œuvre et ensuite font des PV de difficultés ou pas, mais rendent compte de la stratégie qui est ainsi définie. Et cette stratégie, il faut vraiment qu'on la voie dans les documents sociaux de la banque. Ensuite, ce qui compte également, c'est que la majorité des actifs détenus par la holding soit concernée par cette notion d'animation et soit également concernée par soit d'une activité opérationnelle. En réalité, le législateur se méfie que sous couvert d'une holding, on ait des activités qui soit patrimonial et des activités qui soient opérationnelles. Et ce que l'on nous dit aujourd'hui, et que la jurisprudence est là, est assez favorable, nous dit si nous avons plus d'activités opérationnelles que d'activités patrimoniales, je peux quand même appliquer le Dutreil sur la totalité des actifs de cette holding. Alors, là encore, une question pratique, c'est que on a une jurisprudence dans le courant de l'année 2022 qui nous a dit vous devez rassembler les conditions de l'animation et de prépondérance opérationnelle uniquement au moment où vous faites vos opérations de donation, par exemple. Et puis après, ce n'est pas très grave. Le gouvernement n'a pas très bien réagi ou a réagi très bien, au contraire. C'est qu'on a une loi qui nous dit non. Vous devez maintenir les conditions d'éligibilité en termes d'activité pendant toute la durée du pacte Dutreil. Donc, au minimum 6 ans. Bon, ben, ça paraît finalement tout à fait logique. Une jurisprudence qui vous dit, vous remplissez uniquement les conditions aujourd'hui, et puis demain, vous pouvez vendre votre entreprise, vous pouvez cesser toute activité, mais vous aurez quand même droit au bénéfice du Dutreil. Il fallait être un peu fou pour penser que ça allait durer. Mais on a une question pratique et opérationnelle, là encore sur le fond, qui n'est pas forcément résolue, qui porte sur le point de savoir si le job d'une société holding, c'est à la fois de détenir des activités, de détenir des participations, on l'a vu, d'animer ces participations, de les gérer, mais c'est aussi de les vendre. On a une activité dont on pense qu'elle peut être en déclin, ou on vient vous faire une proposition intéressante, eh bien, vous vendez votre participation. Si vous avez plusieurs participations, et que vous en vendez une, vous avez une possibilité de vous retrouver avec plus de liquidité à l'issue de la participation. Et évidemment, la participation qui restera sera minoritaire en valeur par rapport aux liquidités. Qu'en est-il ? Est-ce que l'administration va considérer que, à la suite de ces changements, je peux quand même bénéficier du Dutreil si je réinvestis et dans quel délai ? Ou elle considère que le système est brisé ? Et aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse. Voilà les deux sujets sur lesquels je voulais peut-être plus particulièrement attirer votre attention.
Jérôme, on a une question, et ça renvoie au slide 19, si je ne dis pas de bêtises, où on parle de donateurs ou défunts.
Est-ce qu'on peut se remettre sur la slide 19 ?
Et la question, c'est en haut, c'est un tableau. Et la question est de savoir si un pacte post-mortem est possible.
Alors, c'est une des solutions. Oui, oui, on peut parfaitement mettre en place un post-mortem. D'ailleurs, dans la question de l'extension du pacte Dutreil, ISF au pacte Dutreil Jacob succession, oui, on peut mettre en place un cadre post-mortem. Mais ce n'est pas la même chose, parce qu'il aura fallu déjà procéder des opérations d'une façon un peu distincte. Et là, je ne vais pas vous en refaire le sujet, mais ça n'est pas le même sujet. Ça n'est pas le même sujet. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si on ne peut pas être dans le post-mortem, parce qu'il faudrait que… ou dans le réputé acquis, ce que l'on conseillerait, et ça c'est peut-être une question qu'on nous aura posée aussi, mais ce qu'on conseillerait, c'est de refaire un pacte dès immédiatement, dès qu'on sent que… Enfin, si on pense qu'on a un doute, ou si c'est ISF, comme je viens de le dire, tout n'est pas certain de passer du Dutreil ISF ou du Dutreil donation, on a peut-être intérêt à faire le plus tôt possible un nouveau pacte. D'ailleurs, rien n'empêche de multiplier les pactes et d'en faire 10, 15 si on veut. Ça, ce n'est pas très grave. Avec même des personnes différentes, pour autant qu'on remplisse les conditions d'un membre de la direction qui adhère à ce pacte et d'avoir les conditions de détention de pourcentage que j'évoquais tout à l'heure. Mais le post-mortem est possible, mais dans un cas où réputé acquis est possible, dans un cas mais extrêmement précis, qui est plus compliqué que le nôtre et qui ne marcherait pas dans le cas que j'évoquais tout simple, où j'ai déjà mis en œuvre mon Dutreil par donation. La loi change. Ben oui, mais moi, mon contrat, normalement, est toujours valable. C'est un contrat juridique, ce n'est pas un contrat fiscal. Il a des conséquences. Certes, l'ISF n'a pas fonctionné, n'existe plus, pardon, mais j'ai quand même de la substance pour déterminer ça. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est sans risque, mais la solution d'attente que nous avons préconisée, c'était de faire ce petit complément enregistré à date certaine avant la fin des engagements, notamment dans un certain nombre de groupes familiaux, on a préféré maintenir de l'engagement collectif qui se renouvelle automatiquement que de passer du collectif à l'individuel. Pour une raison au moins, c'est que le collectif maintient de la cohésion entre les membres de la famille, alors que l'individuel peut prêter à dire qu'on n'a plus de cohésion, ou peut entraîner ce manque de cohésion. Et dans des groupes familiaux qui sont volumineux, on cherche forcément la cohésion plutôt que l'éparpillement. Voilà, voilà.
Ok, merci. Ben, on poursuit, je crois, parce que tu as…
Je crois que moi, j'ai à peu près fini. Sur la dernière jurisprudence que j'évoquais tout à l'heure du 24 octobre, c'est juste un point particulier, c'est que les magistrats, c'est un arrêt de la… C'est tout ce qui est droit d'enregistrement relève de la Cour de cassation. C'est un arrêt donc, qui suit un arrêt de 2020 qui était un arrêt qui s'appelait Financière Rosario. Et le renvoi qui a été donné fait que la Cour considère bien, le magistrat considère bien que des immeubles qui sont détenus par holding, s'ils sont à caractère professionnel utilisés par la filiale opérationnelle, j'ai pas de sujet. Des créances qui sont rattachées au titre de participation exigible, j'ai pas de sujet. En revanche, elle a donné un avis, c'est plus anecdotique, mais c'est quand même intéressant. Elle a donné un avis très curieux parce que la holding animatrice détenait des BSA. Alors les BSA, je n'ai pas de droit de vote, c'est pas, donc je ne peux pas exercer mes droits de la même manière, je n'ai pas de droit de vote, je n'ai pas de droit financier, je ne vais pas recevoir de dividendes. Elle a exclu du schéma, puisque c'est un calcul pour voir si on est bien, c'est un calcul numérateur-dénominateur pour voir si on a majoritairement des actifs opérationnels, et elle a exclu les BSA, alors que les BSA pourraient être considérés soit comme l'antichambre des actions, ce qui est plutôt le cas, soit comme un accessoire dans l'acquisition d'une société, et elle a exclu l'éligibilité au numérateur de ce ratio, en considérant que ça pouvait présenter un caractère patrimonial. C'est un peu étrange, mais c'est pour ça que je voulais mentionner cette dernière décision de Mme Thorne. Voilà.
Okay.
Je crois que j'ai à peu près tout balayé.
Oui, il y avait une question, je dois peut-être aborder. La holding animatrice peut-elle exercer une activité mixte ?
Oui. Et ça, c'est quand même une nouveauté de la jurisprudence qui est importante. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, mais là, il faut quand même qu'on ait cette prépondérance pendant la durée de l'engagement du trail. Mais je peux tirer de l'entreprise ou je peux faire du... C'est une des questions, notamment en matière de trésorerie, dans des groupes qui dégagent de la trésorerie. On peut considérer... Alors déjà, on peut considérer que cette trésorerie, dès lors qu'elle provient des filiales opérationnelles, je vais lui donner un caractère. J'en ai besoin pour continuer les acquisitions, j'en ai besoin pour assurer de la sécurité. C'est intéressant de noter tout ça, c'est-à-dire que quand l'administration vient, c'est comme les dossiers de prix de transfert, il faut que tout soit, il faut qu'on ait son dossier préalablement réalisé. Et donc, je peux dire qu'en ma trésorerie, quand j'ai 100 de trésorerie, eh bien, je considère que j'en ai 100 qui pourraient être affectés à une acquisition d'une participation ou d'une autre société. Alors, si on dit ça en 1920, puis qu'on attend 2023 pour dire « bah oui, j'avais stocké cet argent pour acquérir, mais que j'ai aucun dossier d'acquisition », je pense que ça n'ira pas. Il faut être sincère dans ce qu'on dit. Mais on peut réserver une partie à des compléments d'acquisition, à l'acquisition d'entreprise, donc de croissance externe. On peut se dire que si je fais face à tout besoin de trésorerie au sein de mes filiales, et donc je garde une réserve, et puis je peux avoir une réserve à la réserve. Avec ça, et si je le définis proprement, par rapport à mon chiffre d'affaires, par rapport à etc., on peut déjà avoir une enveloppe de trésorerie qui est finalement substantielle, même si ce n'est pas la totalité de la trésorerie, mais c'est encore quelque chose qu'on discute cas par cas et par la méthode du faisceau d'indice. Ensuite, donc, ça signifie que cette partie qui ne sera pas considérée comme opérationnelle, eh bien, je vais rentrer dans la notion de mixte à ce moment-là, je vais avoir une activité opérationnelle et une activité qui ne le sera pas. Si je fais au travers de cette holding des acquisitions de private equity qui ne sont pas des activités en rapport avec l'activité opérationnelle, si j'achète de l'immobilier pour louer sur la plage de je ne sais pas quoi, eh bien c'est une activité patrimoniale, c'est toléré, c'est accepté, c'est admis dans la mesure où cette activité patrimoniale ne sera pas supérieure à l'activité opérationnelle.
Ok, alors encore une autre question sur ce sujet qui concerne un arrêt de la Cour d'assises, je pense, de Paris d'octobre 2022, enfin, qui juge que tous les actifs affectés par une holding à l'activité d'animation de son groupe doivent être pris en compte pour apprécier le critère de prépondérance.
Oui, absolument, c'est l'arrêt que je viens de citer, hein. C'est l'arrêt du 14 octobre.
Là, c'est le même.
C'est pas du 14 octobre, c'est l'arrêt du 24 octobre, du 24 novembre, c'est plutôt du mois de novembre. C'est celui que je citais et que je cite dans mes slides. Si on va dans mes slides et si on continue, on va retrouver cet arrêt. Absolument. Et c'est là où il y a l'exclusion des BSA. Hein, alors, j'ai peut-être été un peu rapide. Voilà, cour d'appel du 24 octobre 2020. Voilà. Et donc, on dit la valeur de l'immobilier donnée à bail. C'est donc les éléments que je vais inscrire à l'actif de ma holding, dont je peux démontrer qu'ils sont effectivement, ils servent ma cause opérationnelle, les biens, à ce moment-là, oui. Et là, dans le cas, on a dit la valeur de l'immobilier, la Cour a dit oui. Les créances d'intérêt, oui. Les BSA sur l'une des filiales, non. Bon, ça, c'est pour moi probablement discutable. Le portefeuille de valeur mobilière de placement de la holding, oui, si le contribuable donc, est en mesure de démontrer l'utilisation de cet actif circulant, c'est ce que je disais. Et c'est pour ça que c'est important d'écrire. Et alors, où écrit-on ? Quand l'administration fiscale vient faire une vérification de comptabilité, la première chose qu'elle va regarder, c'est les documents sociaux, c'est-à-dire les conseils et les assemblées. Il ne faut pas se priver d'envoyer des petits messages dans ces conseils et dans ces assemblées. On peut avoir de la documentation supplémentaire par ailleurs, mais cette documentation supplémentaire, l'administration, elle est assez suspicieuse, elle a toujours l'impression qu'on vient de la sortir d'un chapeau peu de temps après qu'elle nous ait posé la question. Et donc... Alors, quand on fait des conventions de certains types, c'est bien de les enregistrer, mais on ne peut pas toujours tout enregistrer. Donc, nous conseillons chez Yars de réaliser des petites opérations juridique, et puis on précise que ces biens-là sont affectés pour telle raison, pour telle cause, etc., etc. Et donc la question de la trésorerie, parce que cette question de la trésorerie est un sujet qui revient régulièrement, que l'administration essaie de remettre en cause. Donc c'est oui dans le principe, mais dans le cadre de arrêt de cour d'appel, ça a été non. Mais au cas particulier. Est-ce que je réponds à la question ?
Je crois. J'ai répondu à la question. Là, on a évoqué un petit peu tous les sujets. Est-ce que François, tu avais un point à rajouter ?
Bon, pour moi, on a, comme l'année dernière, été efficace. On finit avec un quart d'heure d'avance.
Donc, je rappelle que ceux qui étaient inscrits recevront l'intégralité des slides. Donc, ça fait à peu près 34 slides, très détaillés. Vous dire que donc vous pouvez rejoindre le Centre des professions financières. Donc, c'est un organisme d'intérêt général et donc accessoirement, il y a une réduction d'impôts si vous souhaitez adhérer. Et donc, c'est à la fois des réunions, des groupes de travail, des revues. Enfin, voilà, il y a un annuaire évidemment qui permet de faire du relationnel. Je vais vous donner les prochaines réunions en visio ou en réel, si je puis dire, du Centre des professions financières. Donc, la semaine prochaine, pile poil le 17, vous aurez donc une visio sur le sujet des prestations externalisées des institutions financières. Donc ça, c'est le club des marchés financiers qui réalise cette visioconférence, donc le 17 et le jeudi 26 mars. Donc là, c'est un petit déjeuner en présentiel au Cercle Interallié. Nous recevrons Robert Hoffel, qui a été encore récemment le président de l'AMF, qui pourrait prendre des fonctions, je dirais, prochaines dans le sujet des normes comptables, et on parlera d'extra-financiers, qui est un sujet de plus en plus prégnant. Donc merci à tous.
Eric, il y a une question qui a été posée, dernière, que je vois. Quid de la prise en compte dans le ratio animation des filiales immobilières qui donnent à bail leur actif immobilier aux sociétés opérationnelles, toutes détenues par la société animatrice? On en tient compte, hein, c'est ce que je redisais. Cette question, je sens qu'elle est arrivée après, mais on en tient compte. D'ailleurs, dans la question de l'animation et de la prépondérance, il est important de savoir ce que l'on fait, c'est-à-dire on peut avoir intérêt à voir comment on affecte les dettes, parce que si j'ai par exemple des titres d'une société civile et que cette société civile loue des biens pas à ma société, mais que j'ai une dette, eh bien normalement, c'est la valeur nette de la société civile qui va être prise en compte dans mon ratio. Donc c'est important d'affecter correctement les actifs et les dettes sur les biens qui ne seraient pas forcément éligibles à l'activité ou qui ne sont pas éligibles à l'activité opérationnelle. Voilà.
Eh bien, merci Jérôme pour cette dernière question sauvée par le gong. Donc merci Jérôme, merci François de votre participation, de vos précisions et du temps consacré à la préparation de ces différents slides. On vous renouvelle tous nos voeux à nouveau pour vous et vos proches et voilà, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.
Au revoir.
Au revoir.